Bonjour, c'est aujourd'hui le 7 septembre et nous avons encore plusieurs saints aujourd'hui. Et c'est la veille d'une sorte de jour de Noël demain, n'est-ce pas? C'est la nativité, la naissance, l'anniversaire de naissance de Marie. Et demain, je parlerai en particulier d'un grand miracle qui s'est déroulé à Lourdes, l'un des plus grands. Afin que l'on comprenne l'étonnant pouvoir de cette petite juive qui semblait toute simple et bien ordinaire, j'imagine, à Nazareth, probablement que personne vraiment l'a remarqué outre mesure. Mais c'était la plus grande de toutes les femmes de l'histoire. Et aujourd'hui, justement, c'est la fête de Sainte Reine. Ça vous a été annoncé en ondes ce matin. Sainte Reine, étrange nom pour une martyre. Mais on sait si peu de choses que... C'est l'exemple, n'est-ce pas, d'un passé qui est complètement disparu, où l'on se préoccupait de reliques et de choses à peu près sans importance. Elle est le fruit, au fond, Sainte Reine, d'une maladie des reliques qui habitait une grande partie de l'Église autrefois, et heureusement, en grande partie disparue, quoique je ne sois pas contre la vénération de reliques, qui nous rappelle la sainteté de certaines personnes qui ont vécu avant nous. Nous parlerons aussi de quelques autres saints, mais des saints beaucoup plus intéressants que Sainte Reine. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Donc, je commence brièvement avec Sainte Reine. On nous dit que de cette sainte que les actes, c'est-à-dire les récits qui la concernent, les très anciens, ne valent rien. C'est ça qu'on dit dans les milieux les plus sérieux, c'est-à-dire chez les Bonandistes, chez les Bénédictins de Paris, qui ont travaillé sur l'histoire des saints, les grands martyrologes, là, des ouvrages énormes en d'innombrables volumes, et qui ont fait d'énormes recherches. Les récits sur l'histoire de Sainte Reine s'inspirent d'ailleurs de ceux de Sainte Marguerite, ou si vous préférez, de Sainte Marine d'Antioche, dont je vous ai parlé le 20 juillet dernier. Le rédacteur prétend, chose absolument impossible, d'avoir été témoin oculaire de ce qu'il raconte. À moins qu'il y ait vraiment un texte très ancien qui nous échappe, qui a été détruit, mais quand on lit le texte, on voit bien qu'il n'a pas vraiment été témoin oculaire. Le culte de Sainte Reine est très ancien. On en trouve dans le manuscrit de Berne. Berne, c'est en Suisse. C'est conservé à Berne. Et c'est écrit dedans « Au territoire de la cité éduenne, c'est-à-dire à Alésia, mort de Sainte Reine, martyre. » Alors, cela suppose un culte à Alésia avant 628. Alésia, en France, est très réputée comme ville très ancienne de l'Empire romain. Le double testament du fondateur d'une abbaye bénédictine qui est encore très connue aujourd'hui, Flavigny. Cet abbé, ce fondateur s'appelait Vidrade. Ils avaient des noms invraisemblables pour nos oreilles d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc, le fondateur de l'abbaye bénédictine de Flavigny, dans son double testament, montre que vers 750, Sainte Reine avait quand même si on la connaît pas vraiment, une basilique à Alésia, où se trouvaient, croyait-on, ces reliques. Alors, on commence avec l'histoire des reliques. Un monastère était annexé à la basilique. Le 21 mars 864, donc plus de 100 ans plus tard, les reliques furent transportées d'Alésia à Flavigny, là où est le monastère assez connu aujourd'hui. Selon des leçons liturgiques là, du 9e siècle, qui ont été publiées par un moine bénédictin de la fameuse congrégation très brillante et très intellectuelle de Saint-Maur, dont Viol, en 1653, le corps de Sainte Reine était demeuré quelque temps au lieu où elle avait été martyrisée, juste en dehors d'Alésia. Puis, on l'aurait porté dans la ville, placé dans un sarcophage de pierre sur lequel on a bâti la fameuse basilique. Elle est devenue lieu de pèlerinage, puis un monastère aussi lui fut adjoint. Et alors, une église paroissiale distincte fut édifiée auprès d'Alésia sur la pente du mont Auxois, toujours en l'honneur de cette sainte et des reliques. Et déjà pour les Gaulois, Alésia, ben c'était un lieu saint. Et Camille Julian se persuadait que le culte de Sainte-Reine, et je cite dans son Histoire de la Gaule, a un rapport très étroit avec celui d'un génie de la source voisine. Alors on tombe tout près du paganisme. En 1923, donc il n'y a pas si longtemps, on a déblayé à Alésia l'édifice chrétien, d'époque mérovingienne, rectangulaire et sans abside, c'est-à-dire sans cette forme en demi-cercle qu'on trouve au fond des églises. Je le signale, une abside, c'est ça. C'est pas souvent les gens ignorent le mot abside parce qu'on l'utilise bien peu ici. On parle peu d'architecture de toute façon parce que nos monuments architecturaux ont apparemment moins d'importance que ceux d'Europe, et c'est évident, parce que ceux d'Europe sont encore beaucoup plus anciens et parfois beaucoup plus beaux, mais il n'en reste pas moins que nous avons de très, très belles églises à Montréal, et de même un peu partout au Québec. Il faut visiter souvent de très belles églises, et il faut obtenir l'autorisation d'y entrer, parce que souvent, il faut aujourd'hui, malheureusement, les fermer à clé à cause des profanations, des vols et des sacrilèges. C'est pénible, vraiment pénible. Je me souviens, quand nous étions jeunes, on voyageait, on entrait dans les églises, on visitait, c'était très beau. Jamais personne n'aurait pris quoi que ce soit, du moins à ma connaissance. Alors, je termine l'histoire de Sainte-Reine sur un débat très curieux qui s'est déroulé, justement, toujours autour de ses reliques. On croyait posséder son corps à Honnasbruck, et lors de la négociation du traité de Westphalie, eh bien, le duc de Longueville a obtenu une relique pour Alésia en 1648, mais Flavigny a protesté. Et en 1649, l'année suivante, bien, un médecin a constaté. C'est exact, c'est incroyable l'importance qu'on attachait aux reliques. Hein. Un médecin a constaté que le radius apporté d'Honnasbruck se trouvait déjà à Flavigny. Alors, ça faisait deux fois la même relique. Et en 1693, l'évêque d'Autun, c'est très beau Autun, c'est à visiter, une belle basilique, une belle église, c'est en France, a imposé silence aux deux parties. Il les a autorisés, l'un et l'autre, à exposer chacun leur relique, quoi. Et en 1652, on avait publié une liturgie à Honnasbruck, dans laquelle on a substitué partout à Reine d'Alise, une autre reine, ben, comme prénom, la reine, compagne de Sainte-Ursule, et l'une des 11 000 vierges. Vous savez, Sainte-Ursule et ses 11 000 vierges, un jour, je vous raconterai tout ça. Et puis, c'est une substitution tout à fait arbitraire, ça. On passe d'une reine à l'autre. Et on avait bien reçu à Osnabrück, en 1343, une relique d'une sainte, Cordula. Vous savez que, je crois que c'est Hans-Urs von Balthasar qui a écrit un livre là-dessus, qui était martyr à Cologne, et l'une des 11 000 vierges. Et il est vraisemblable qu'en 1652, on a pensé que la relique de Sainte-Reine avait la même provenance. Voyez-vous, toutes ces préoccupations de reliques, c'est fastidieux finalement. Et l'éloge de Sainte-Reine, qui figure au martyrologe romain, tout ça s'était emprunté à Usuard, un fameux spécialiste des huit saints au 9e siècle. Sainte-Reine me s'est commémorée aujourd'hui dans certains diocèses. Là, à Sens, en France, toujours, à Dijon, à Autun, à Nevers. Nevers, où a vécu Sainte Bernadette Soupirou comme religieuse. Je vous en parlerai demain, à l'occasion de la nativité de Marie. Dans la côte de Beaune, d'où nous viennent de très bons vins, n'est-ce pas, il y a des souvenirs de pèlerinage à Sainte-Reine qui subsistent encore aujourd'hui. Il y a même une chapelle Sainte-Reine dans différents endroits, dans le Cantal, puis il y en a dans le Massif central, etc. Mais tout ça est extrêmement près d'un pauvre peuple chrétien, préoccupé par des choses extrêmement secondaires. Et je vous ai raconté ça pour vous dire jusqu'à quel point notre Église a évolué et nous avons vraiment grandi dans une connaissance beaucoup plus profonde par l'Évangile, par la liturgie, par un enseignement beaucoup plus sérieux de notre foi. Et je crois que beaucoup plus de chrétiens aujourd'hui connaissent l'essentiel de la foi chrétienne, se rassemblent dans des soirées de prière ou des réunions où ils entendent des conférences spirituelles valables, comme au Centre Christus. Et je en profite pour vous parler du Centre Christus quelques instants, en vous signalant justement que là, on ne parle pas de Sainte Reine, qui est une sainte sans grand intérêt, évidemment, mais de gens comme Thérèse de l'Enfant Jésus, de Saint Augustin, de Saint Benoît, de Saint François, de Saint Dominique, de Sainte Catherine de Sienne, de Saint François de Sales, et du cardinal de Bérulle, merveilleux cardinal, de Jean-Jacques Ollier, de Charles de Foucault, de Madeleine d'Elbrel, et du fameux père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus. Tout ça, c'est durant l'automne. Et si vous téléphonez au Centre Christus, vous parlerez au besoin sur Pierrette Petit, qui est passée sur nos ondes l'autre jour, à l'émission de M. Gilbert Charron de 2h à 4h. Alors si vous téléphonez au Centre Christus, vous pourrez avoir des renseignements sur ces conférences données par des gens extrêmement compétents. Il y a Pierre Francoeur, le père Pierre Francoeur, qui est un clerc saint-viateur, qui a une quarantaine d'années, qui est du diocèse Saint-Jean-Longueuil, et qui a fait sa thèse sur Thérèse de l'Enfant Jésus à l'université de la Grégorienne, c'est-à-dire chez les Jésuites à Rome, et qui donne la plupart de ses conférences. Mais il y a aussi le père André Leblanc, un prêtre des missions étrangères, qui est un ancien missionnaire en Amérique du Sud, qui s'intéresse beaucoup à la musique. C'est un Acadien, c'est un homme très très cultivé, et pourtant il s'occupe aussi des motards. C'est lui qui parlera de la prière chez Saint Augustin. Et il y a aussi Thérèse Rémy, une Française, une Marseillaise, 70 ans environ. Elle a mon âge, quoi. Et elle s'est intéressée beaucoup à la philosophie de Blondel, de Maurice Blondel. Et elle a connu le père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus. Et elle est même à la source de cet ouvrage qu'il a écrit, « Je veux voir Dieu ». Elle enseigne au Grand Séminaire de Montréal, Thérèse Rémy. Elle parlera du profil d'une vie, c'est-à-dire le père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus. Tout ça, c'est au mois de septembre, au mois d'octobre et au mois de novembre. Alors téléphonez à 276-9433, 276-9433, et Sœur Pierrette Petit se fera un plaisir de vous donner les renseignements, de vous expédier au besoin le programme, et de vous renseigner sur l'œuvre extraordinaire qu'elle accomplit de façon absolument remarquable depuis tant d'années. Et maintenant, nous allons parler de saints anglais. Des Anglais qui ont été traités de façon absolument barbare, mais pour des raisons politiques, je tiens à insister, c'est pour des raisons politiques, et vous verrez pourquoi je dis ça. On ne peut pas accuser les Anglicans de ce crime, absolument pas. Ça n'a rien à voir avec l'anglicanisme. Ils sont morts en 1644. C'est John Ducket. Ducket, c'est D-U-C-K-E-T-T. Ducket, c'est un nom qu'on voit parfois. Et l'autre, c'est Ralph, ou Raoul, si vous préférez, Ralph Corby, comme Corby, les distributeurs d'alcool, Corby's, on voit ça. Alors, C-O-R-B-Y, mais ils n'ont rien à voir avec l'alcool, vous verrez bien. Ce sont des saints admirables, extraordinaires. Quel courage! La famille Ducket, de John Ducket, était du nord de l'Angleterre. D'ailleurs, il y a un bienheureux James Ducket qui a été pendu à Tyburn en 1602. Un bienheureux, voyez-vous, ils ont deux bienheureux Ducket. Celui-là, James Ducket, avait été pendu pour avoir publié des livres catholiques. Pourquoi faisait-on ça? C'est que on craignait, je le rappelle, en Angleterre, après cet effroyable et triste schisme de l'Église catholique anglaise qui s'est séparée de l'Église catholique de Rome pour devenir l'anglicanisme et devenir une Église en grande partie protestante, même s'il y a encore des gens profondément catholiques chez les anglicans, catholiques dans le sens de la tradition catholique, mais sans reconnaître malheureusement l'infaillibilité pontificale. Ils vont même jusqu'à reconnaître la primauté du pape, certains d'entre eux. Ils vont très très loin dans leur esprit catholique traditionnel. C'est très curieux. Il faut étudier l'anglicanisme et c'est très surprenant quand on étudie ça. Vous savez, je suis déjà allé dans une paroisse à New York où les sœurs portaient des costumes religieux très traditionnels, les prêtres portaient la soutane pour nous accueillir, il y avait des confessionnaux, des chemins de croix, on y avait la messe en grégorien mais en anglais, on se disait catholique, on ne parlait jamais de l'église épiscopalienne. On avait même un grand séminaire qu'on appelait catholique, s'il disait « Our Catholic Seminary », et on ne disait pas autre chose. Et on fêtait les fêtes de Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, du curé d'Ars et des saints du 19e siècle. Et on réclamait la canonisation du cardinal Newman, ce grand anglican devenu catholique et devenu cardinal catholique. Donc, je reviens sur ces martyrs. Le James Ducket dont je viens de vous parler, qui avait été pendu en 1602, avait un fils qui est devenu prieur des Chartreux de Newport en Flandre. Et puis, notre bienheureux John Ducket, celui-là, était le fils d'un autre James Ducket, un parent à un degré que nous ignorons, par exemple. Il était parent du bienheureux James Ducket pendu, là. John Ducket est né dans le Yorkshire en 1613 et il est allé au collège anglais de Douai. Il y avait un collège anglais là pour former des prêtres, pour essayer de conserver le catholicisme romain. J'insiste sur romain pour faire la distinction, n'est-ce pas, le catholicisme fidèle au pape. Et il a été ordonné prêtre en 1639. Et il a étudié 3 ans au collège d'Arras, qui avait été fondé à Paris en 1332, et qui était situé rue d'Arras. C'est pour ça qu'on l'appelait le collège d'Arras. C'est dans le 5e arrondissement à Paris, dans un arrondissement où il y a beaucoup de souvenirs religieux à Paris. C'est très intéressant à visiter. Alors, John Ducket était pieux, puis il passait pour un grand contemplatif. Et après 2 mois de retraite chez les Chartreux de Newport, en Flandre, où il y avait eu ce moine qui s'appelait justement Ducket, il est venu, armé d'une forte spiritualité, à vouloir aller en Angleterre pour servir les catholiques qui étaient demeurés fidèles à leur foi. Alors il a été arrêté en même temps que 2 laïcs au bout 1 an seulement de ministère, le 2 juillet 1644, jour de la fameuse bataille de Marston Moor dans le comté de York où Cromwell, le fameux Cromwell, oh mon Dieu, c'était l'anniversaire de sa mort dimanche dernier. Un jour je vous parlerai de Cromwell que des aspects positifs, même si c'était un pénible personnage sous certains aspects, mais c'était quand même un révolutionnaire aux idées belles mêlées de choses pénibles. Hein. Donc, c'est là que Cromwell, dans cette bataille, avait vaincu les royalistes, c'est-à-dire les gens qui étaient au pouvoir et qui abusait souvent, comme ça arrive dans l'histoire des royaumes, hein, ou de tout gouvernement, même dans nos démocraties, il arrive que malheureusement, nos chefs d'État, dans certains pays du moins, abusent de façon abominable de la caisse. Et John Ducket, ce jour-là, allait baptiser 2 enfants. Il a été interrogé, il a refusé de dire qu'il était prêtre. Les saintes huiles, malheureusement, puis le rituel qu'il portait avec lui, ça prouvait bien qu'il était prêt. Mais on voulait un aveu formel. Alors, pour l'aider, on lui allumait des mèches entre les doigts, imaginez. Et apprenant qu'on mettait à la question, vous savez ce que ça veut dire mettre à la question, c'est-à-dire torturer des gens en les questionnant pour obtenir des réponses qui soient celles qu'on veut, au fond. Alors, en principe, c'est pas permis ici, mais on sait que parfois, ça se pratique, malheureusement, dans certains postes de police à Montréal, quelques-uns, pas tous, loin de là, je connais beaucoup de policiers remarquablement honnêtes et intègres à Montréal. Hein. Et donc, quand s'est appris ça, qu'on mettait à la question les 2 laïcs, alors il s'est dit, que mieux valait pour lui de parler, et les deux laïcs seraient libérés de cette torture abominable. Alors, il a décidé à reconnaître son sacerdoce, il a été envoyé à Londres. Avec un jésuite, Ralph Corby, de son vrai nom Corbington, c'est devenu Corbington, et le père avait été pris sur le point de dire la messe près de Newcastle. Il était d'une famille de Durham, et Corby était né à Dublin, en Irlande, en 1598, et tout jeune, il est venu en Angleterre. À la persécution, sa famille a réagi absolument, de façon fantastique. Quels Irlandais! Le père de Ralph Corby, il est devenu coadjuteur temporel dans la compagnie de Jésus. Il a ramené à la vraie foi son propre père qui était centenaire. Et la mère de Ralph Corby est entrée chez les bénédictines de Gand, en Belgique d'aujourd'hui, dans les Flandres. Deux de ses sœurs se sont faites bénédictines à Bruxelles. Ses frères se sont faits jésuites. Et pour lui, il a étudié à Saint-Omer, à Séville, en Espagne, à Valladolid. Il est entré chez les jésuites en Flandre. Et il est venu à la mission anglaise, comme on dit, n'est-ce pas, c'est-à-dire qu'il est allé en Angleterre, en 1632. Il a travaillé au service des paysans dans le diocèse de Durham, où il était né. Souvent sur les chemins, à pied, malgré une santé médiocre, et pendant 12 ans, son dévouement a connu tout. La boue des routes, la poussière, les endroits où le logis était malsain, les repas qui étaient espacés et incertains, et la population catholique a appris à le vénérer comme un père et un apôtre. Et alors, arrivé à Londres, là, les deux prêtres ont été emprisonnés à Newgate, et ils devaient comparaître en septembre. Alors la compagnie de Jésus s'était forcée de faire négocier la libération du bon père Corby contre celle d'un colonel qui avait été fait prisonnier par les pouvoirs impériaux en Allemagne. Et l'affaire semblait conclue. Et Corby a voulu faire bénéficier le père Duckett de sa grâce, et ce fut alors un bel assaut de générosité entre les deux détenus. Et vous allez voir comment ils se sont battus tous les deux pour savoir lequel serait libéré. Mais vous verrez que le malheur s'est emparé d'eux, et nous... Ils sont arrivés... à Londres, n'est-ce pas? Et puis, je vous ai dit qu'ils avaient été emprisonnés. Et alors, c'était une situation épouvantable. Tous les deux se débattaient pour savoir lequel des deux serait libéré, en voulant que ce soit toujours l'autre qui soit libéré. Ils n'étaient pas égoïstes. Et finalement, le Parlement anglais, fatigué de les voir se débattre comme ça, a décidé de les condamner tous les deux. Et Corby a fait observer qu'il était né à Dublin, en marge des lois anglaises. Et la veille de leur martyre a été marquée par une espèce de pèlerinage, si on veut. Un pèlerinage de beaucoup de catholiques. C'est pour vous dire comme les catholiques avaient quand même une certaine liberté. Ils ne l'avaient pas acquise. C'est au 19e siècle qu'ils vont l'obtenir, hein. Alors, il y avait là des catholiques anglais, même des catholiques étrangers, à la prison. Même la duchesse de Guise, je pense que c'était celle qui était l'épouse d'Henri II de Lorraine, probablement, cette duchesse de Guise à ce moment-là, elle est venue de Douvres. Et le père Duckett s'est excusé de ne pas pouvoir la confesser. Et c'est le père Corby qui l'a entendu en confession, puis il lui a donné la communion. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont assisté à ces dernières messes, les deux dernières messes de ces prêtres. Et tandis qu'il célébrait, Corby a semblé comme agonisant de tristesse et de peur. Et il avait peur. Oui, il avait peur. Qui d'autre a eu peur comme ça au moment de sa mort, hein? Relisez bien Saint-Luc. Au chapitre 22, verset vers la fin, le 44, c'est Jésus qui a peur. Hein? Dans Saint-Marc aussi, au chapitre 14, Jésus a peur. Et le père Corby avait peur. Et à 10 heures, le 7 septembre, 7 septembre 1644, ils sont partis tous les deux pour Tyburn, souriants. Ils avaient retrouvé leur force. Ils avaient la tonsure bien rasée, car on portait la tonsure. Qu'est-ce que c'est qu'une tonsure pour les plus jeunes ou des gens qui connaissent pas ça, là? On n'en voit plus de tonsure. C'est une façon, je vous l'ai déjà expliqué une fois, c'est une façon qu'avaient les prêtres et les religieux clercs, c'est-à-dire ceux qui se destinaient au sacerdoce, de se raser les cheveux. Et la tonsure cléricale, pour les prêtres séculiers, c'était sous la forme d'une petite ou grande hostie. Et c'était rasé jusqu'au crâne, et alors les cheveux poussaient tout autour. Les moines portaient des tonsures beaucoup plus grandes. On voit ça sur des dessins, n'est-ce pas, ou sur des petites statues un peu folichonnes de franciscains. Et alors, donc, ils étaient même en soutane, on leur permettait ça. Et beaucoup de personnes ont demandé au père Duckett sa bénédiction. Il a répondu à un ministre protestant qui voulait argumenter avec lui. « Sir, je ne viens pas ici pour apprendre ma foi, mais pour mourir en la professant. » Il y a quelque chose d'un peu britannique là-dedans. Le père Corby, lui, notre Irlandais, a dit quelques mots au peuple. Puis, il a embrassé Duckett. Et on a eu l'humanité, je dis bien l'humanité, c'est assez curieux. On tue du monde, mais on se montre humain quand même. On a eu l'humanité, la gentillesse, on peut dire, d'attendre qu'ils soient morts pour les découper en morceaux et pour les ouvrir, je m'excuse. Et on a veillé à ce que le feu ait bien consumé tout ce qui était ensanglanté. Mais il est resté une main du père Duckett, ses mains consacrées de prêtre, et des lambeaux de soutane qui ont été recueillis. On a une lettre du père Duckett qui a été écrite la veille de sa passion, et c'est un peu pour ça que je vous ai tout dit, ce martyr terrible. Réfléchissez bien ce qui est dit. Hein? Je ne crains pas la mort sans mépriser la vie. Si la vie devait être mon lot, je la supporterais patiemment. Mais si c'est la mort, je la recevrai avec joie. Et maintenant, comme c'est une journée de martyrs, et que je vous raconte des histoires terribles, et que j'essaie de vous faire comprendre que justement aujourd'hui, les Anglicans, l'archevêque de Canterbury, chef spirituel de l'Église d'Angleterre, de l'Église anglicane, visite le pape depuis Paul VI et les autres après, et les archevêques s'entendent bien avec le pape, et beaucoup de prêtres anglicans collaborent avec des prêtres catholiques et les laïcs aussi, ils vont prier ensemble, et on a appris à se reconnaître, à s'apprécier, à s'aimer. Heureusement, tout ça est disparu. C'est pour vous dire, les gens qui disent « rien n'a changé, rien n'a progressé », mais non! Les choses s'améliorent constamment parce qu'on n'a que le regard sur les choses négatives. Regardons les choses positives. Et là, je vais vous montrer les choses négatives du XVIIe siècle qui vous montreront bien que les choses ont changé jusqu'à un certain point. C'est terrible, mais nous avons vraiment parcouru un chemin depuis ce temps. Ce sont des martyrs qui, de tout jeunes, 31 ans, 35 ans et 37 ans. Les premières années du XVIIe siècle ont été marquées, dans toute l'Europe orientale, par des luttes religieuses terribles, mais c'était surtout des luttes politiques. Les Tchèques s'étaient révoltés en 1618, et Ferdinand II, qui était devenu empereur l'année suivante, avait cru pouvoir s'appuyer sur un bonhomme abominable, c'est un petit seigneur de Transylvanie. Transylvanie, c'est en Roumanie surtout, n'est-ce pas? Et ce petit seigneur s'appelait Bethlen Gabor, comme les sœurs Gabor, là, Eva Gabor, et je m'excuse de faire le rapport, mais entre les cas, c'est un personnage pénible que ce Gabor. Et ce bonhomme-là était vraiment un hypocrite. Puis il s'était assuré une place très importante. Mais au mois d'août 1619, ce Gabor, profitant de la faiblesse de l'empereur dont je viens de vous parler, le Ferdinand II, il est entré en Hongrie. Il a appelé sous les armes tous les protestants qui étaient alors assez nombreux surtout parmi les seigneurs. Pourquoi étaient-ils nombreux chez les seigneurs? C'était pour s'opposer aux abus de l'Église catholique, qui souvent prélevait des fonds énormes pour des raisons pénibles comme la construction de Saint-Pierre de Rome et d'autres raisons plus ou moins ridicules comme l'entretien des cardinaux qui vivaient dans le luxe. Pas tous les cardinaux, hein, je tiens à spécifier, certains cardinaux. Il y avait des abus terribles. Reconnaissons-le, nous catholiques, et demandons pardon. Donc les insurgés, ces protestants révoltés, à la fois contre l'empereur et le pape, bien, ils ajoutaient aux horreurs de la guerre toutes les persécutions religieuses. Alors qu'est-ce qu'on pratiquait? Bien, des pillages d'églises catholiques, de couvents catholiques. On pratiquait des arrestations abominables, des brutalités qui se sont multipliées un peu partout. C'était un déchaînement incontrôlable par certains protestants qui auraient bien voulu que tout ça s'arrête. Et le drame que je vais vous raconter s'est passé à Kassa. C'est le nom hongrois d'une ville qui est appelée, comment en français, Cassovie. On a la manie en français, n'est-ce pas, de franciser outre mesure les noms. C'est simple d'appeler ça Kassa. K-A-2-S-A plutôt que Cassovie. Enfin. Et alors, cette ville se trouve dans la chaîne de montagnes des Carpates, au sud des Carpates. Et elle appartenait politiquement à la Hongrie. Ben ça, c'est, elle a appartenu à la Hongrie jusqu'au traité de 1919. Hein. Là, ça a été attribué à la Slovaquie. Bon, passons. Un des lieutenants de Gabor, qui s'appelait Rakocsi, est entré dans la ville sans rencontrer de résistance parce qu'il avait promis la vie sauve à tous les habitants, même les catholiques papistes, comme il disait. Et néanmoins, à peine arrivé, le 5 septembre 1619, il a envoyé des soldats pour garder à vue qui? Trois prêtres catholiques qui résidaient alors dans la ville, c'est-à-dire le chanoine, Marc Crisin, je prononce leur nom à la française, c'est plus facile, et deux jésuites, les pères Étienne Pancratz et Melchior Krotetch. Marc-Étienne Crisin, ça veut dire ça en hongrois, de la croix. C'est Korossi, enfin, peu importe. Il était né en 1538, dans le diocèse de Zagreb, en Croatie. Ses parents, qui étaient catholiques, l'avaient envoyé au collège des jésuites de Kratz. Il avait fait des études brillantes. En 1611, il est entré au collège germanico-hongrois à Rome. Il est resté là pendant 4 ans, jusqu'en 1615. Le primat de Hongrie l'a attiré dans son diocèse de Gran. Il l'a nommé chanoine. Il a confié la charge de professeur, puis de recteur au séminaire de Tirno. Et en 1618, à 30 ans, il a été élu administrateur de l'abbaye de Chiplac, non loin de Kassa, où s'est déroulé le martyr abominable, où il s'est réfugié lors des premiers troubles suscités par les calvinistes en juillet 1619. Et là, c'est là qu'il a retrouvé le père Pancratz. Et puis ensemble, ils ont fait les exercices spirituels de Saint-Ignace. Qui était Étienne Pancratz? Il était né en 1582, donc un peu plus âgé, au château d'Alvins, en Transylvanie. Ses parents étaient de nobles hongrois, qui ont été un peu consternés quand ils ont vu leur fils qui voulait entrer chez les jésuites. Mais ils ont dû céder. Après son noviciat chez les jésuites, donc, et ses études, ses longues études, il a enseigné dans divers collèges. En 1615, il a été envoyé en Hongrie, dans un collège de Hamomna, et est devenu en même temps préfet des classes du petit pensionnat, puis prédicateur. Il était un excellent prédicateur. À partir de 1618, le gouverneur de Kassa lui a demandé de s'occuper exclusivement des fidèles de la ville et des environs. En 1619, l'année suivante, il avait fait les exercices spirituels avec le chanoine Crisin dont je vous ai parlé là, et il alla assister un malade à Saros, mais il a tenu à rentrer malgré le danger que présentaient les protestants qui voulaient envahir. L'autre, Melchior Krodetch, était né lui en 1584, donc un peu plus jeune que le précédent, 2 ans plus jeune. Il était né en Moravie. C'est de parents nobles et riches, qui étaient originaires de Galicie. La Galicie, ben, il y en a une moitié en Ukraine, une moitié en Pologne. Hein. Il rencontra Étienne Pancratz, au noviciat des jésuites. Ils étaient tous les deux jésuites. Et après des études, quelques années d'enseignement, il a été envoyé à Prague, dans la belle ville de Prague, en 1614 comme prédicateur. En 1618, il était donc à Cassa, comme aumônier militaire. Et pendant que le père Pancratz faisait demander au lieutenant du terrible Gabor à Kotchi pour quel motif on les gardait tous les trois, et on leur interdisait tout rapport avec l'extérieur, mais là, le conseil de ville s'est réuni. Il a été réuni par un sénateur, puis par un prédicant, c'est-à-dire un prêcheur protestant, Alvinci, qui ont proposé à leurs collègues de mettre à mort, tout simplement, tous les catholiques indistinctement. Mais la majorité de ces protestants, qui avaient du cœur, qui étaient des chrétiens véritables, ont refusé d'approuver un tel massacre. Mais après une longue discussion, vous savez, commencer souvent dans des conseils comme ça, c'est les plus audacieux qui gagnent. Alors, ils ont conclu que les catholiques auraient peut-être la vie sauve, d'accord, mais il était convenu que, lors de la reddition de la ville, on n'avait pas parlé des trois prêtres, et ces trois prêtres devraient être livrés au fameux lieutenant Rakocci, car il n'avait pas été question d'eux, n'est-ce pas? Alors, les soldats n'avaient pas attendu cette décision-là pour commencer le pillage, et l'un des soldats s'est saisi de la clé de la chapelle et ouvrit la porte. Et là, je vous fais grâce de certaines parties, parce que c'est terrible. Le père Pancratz lui a crié « Prends garde, mon ami, crains de profaner les objets consacrés au culte du Seigneur. Prends garde à toi, répondit-il, et crains pour ta vie, le reste ne te regarde plus. » Ils s'emparèrent, les soldats, de tout ce qui avait de la valeur. Puis revenant aux prisonniers, ils leur ont ordonné de donner tout leur argent s'ils voulaient avoir la liberté. Mais les deux jésuites ont répondu qu'ils n'avaient rien, ils possédaient rien, sinon leurs habits, puis quelques livres. Alors le chanoine Crisin, lui, espérant sauver ses compagnons, a offert de payer les rançons si on voulait le laisser aller chercher de l'argent, mais les soldats n'avaient pas d'autre consigne que de garder sévèrement les trois prêtres. Ils voulaient seulement les voler le plus possible. Et espérant obtenir davantage par la force, ils les ont menacés de leurs armes. Alors là, le père Pancratz a entrouvert son col, présenté son cou. Mais comme les soldats n'avaient pas reçu d'ordre de les tuer tout de suite, ils s'en allèrent sans leur faire de mal. Mais avant de condamner à mort ces trois prisonniers, le fameux lieutenant Rakocci a envoyé un de ses fidèles proposer au chanoine Crisin les biens de la prévôté de Chiplac, là, où était le monastère, et d'autres dignités, là, s'il voulait bien faire profession de calvinisme. Hein. Je vous parlerai un jour de Jean Calvin, pour lequel j'ai une certaine estime, malgré que moi je sois catholique. Il faut bien comprendre Calvin. Hein. J'en parlerai le 27 mai. Il est mort le 27 mai 1564. Alors, on a jugé inutile d'essayer de traiter avec les jésuites. Le père Pancratz a pris la parole pour soutenir la défense du chanoine Crisin. Mais le chanoine a voulu répondre lui-même. Alors là, il a été poli, a remercié Rakocci de sa bienveillance, imaginez. Il a fait remarquer qu'il ne pouvait s'approprier des biens ecclésiastiques, puis a proclamé qu'il ne connaissait qu'une seule vraie religion et qu'il mourrait plutôt que de l'abandonner. Alors là, les gardiens ont donné rien à manger ni à boire à leurs prisonniers. Dans la soirée du second jour, ils ont demandé quelque chose. Là, un soldat leur a jeté quoi un vendredi? Un morceau de viande en se moquant d'eux. « Allez, sale bête, mangez !» Alors ils ont compris que ce protestant voulait les éprouver car c'était un vendredi. Et ils n'y ont pas touché. Ils ont demandé de l'eau. Ils n'ont obtenu que des ricanements. Et dans la nuit du 6 au 7 septembre, sont arrivés une bande d'éducs, c'est-à-dire des soldats qui étaient connus pour leur brutalité, comme des membres de la Gestapo, quoi. Ils étaient accompagnés de quelques notables, dont un sénateur et le fameux président Alvinci et le prédicant, là. Et puis alors là, ils ont secoué violemment la porte de la pièce où étaient les deux jésuites, et le père Pancratz a ouvert. Il a reçu un coup si violent à la figure qu'il a été projeté sur le foyer. Les bourreaux se sont précipités sur les deux jésuites. Ils les ont frappés à coups de poing et à coups de pied. Ça me rappelle Jacques Couture, ce jésuite qui est mort récemment. Il a raconté comment il avait été traité par notre propre police québécoise, là. Probablement la police municipale, mais je ne suis pas sûr. En 1970, qu'ils l'ont battu à coups de pied. Il disait, savez-vous qui je suis? Je suis jésuite. Et les autres disaient, je pense. Ben, c'est ça. Puis moi, je suis Jean 23. Puis continuait à le frapper. quelle horreur, quelle horreur. Pauvre père Jacques Couture. Alors ils les ont jetés à terre, leur ont attaché les mains, leur ont arraché les vêtements. Et ils les ont mutilés atrocement au milieu des rires et des grossièretés. Leurs victimes répétaient les noms de Jésus et de Marie. Ils ont passé dans la pièce voisine où se tenait le chanoine Crisin. Ils lui ont fait subir les mêmes supplices, les mêmes outrages. Les notables qui étaient présents les exhortaient à avoir pitié. Et puis, ils n'osaient pas s'opposer à des projets qui n'avaient pas d'autre but, disaient-ils, que le plus grand bien de la Hongrie. Alors le chanoine Crisin a répondu qu'il ne souhaitait rien d'autre lui-même que le bien de la Hongrie. Et le père Pancrace a entendu. Alors là, il a eu peur que son compagnon passe pour devenir calviniste. Alors il a dit, prenez garde d'être d'accord avec eux et de laisser les étendards du Christ pour une vie misérable. Et là, le chanoine Crisin a compris que ses paroles pourraient être mal interprétées. Alors il a crié au père Pancrace, mais voyons, jamais une pensée aussi infâme ne m'a traversé l'esprit. Les patriotes avec lesquels je rêve de vivre sont ceux qui voudront pour mon pays le vrai bien, c'est-à-dire quoi? Mais la seule foi véritable, la religion de Jésus-Christ. Alors les bourreaux se sont retournés contre le père Pancrace, et les notables de Cassa le sommèrent de leur remettre sa correspondance avec le comte de Homona, en l'accusant d'avoir essayé de former une conjuration de catholiques, une révolution de catholiques en somme. Et sans nier ses rapports avec le comte de Homona, le père Pancrace a déclaré qu'il n'y avait jamais eu de conjuration, qu'il était prêt à se défendre devant un tribunal régulier. Là, les notables ont fouillé, n'ont rien trouvé. Ils ont abandonné les trois prêtres aux soldats barbares. Et pour empêcher le père Pancrace de répéter inlassablement les noms de Jésus et de Marie, ils lui ont coupé le nez et les oreilles, ils les lui ont enfoncés dans la bouche, ils lui ont broyé les doigts dans la gâchette de leur fusil, ils lui ont mis une corde autour de la tête, et ils la serrèrent si brutalement que les yeux lui sortaient des orbites. Et il avait la force de murmurer encore, « Mon père, père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il faisait comme Jésus-Christ en croix. Et après avoir torturé le père Crodès chez le chanoine Crisin, ils leur ont lié les poignets à tous les trois. Ils les ont suspendus nus et sanglants aux poutres du plafond. Ils leur ont attaché de grosses pierres aux pieds. Puis avec des flambeaux, ils les ont brûlés de telle sorte que de leur chair rôtie, la graisse coulait. Ça rappelle les martyrs de nos pères jésuites ici au Canada au XVIIe siècle. On pouvait voir leurs côtes et leurs intestins, et dans ce supplice abominable, les martyrs invoquaient toujours Jésus et Marie. Et au petit jour, les bourreaux ont voulu en finir, ils ont détaché leurs victimes, les ont frappés encore, et finalement, ils ont coupé la tête du chanoine Crisin. Et là, ils ont jeté les corps et les têtes dans la fosse d'aisance toute proche. Et quant au père Pancrace, qui n'avait pas eu la tête tranchée, lui, ils l'assommèrent de deux grands coups et le précipitèrent avec ses compagnons, puis ils sont partis. Et alors, d'après une relation du martyr, un jeune homme qui n'avait pas voulu se séparer des trois prêtres, mais qui avait voulu partager leur sort, puis le sacristain épergeait, si on a son nom, s'était prudemment caché. Il n'a pas voulu bouger avant d'être bien sûr que les soldats étaient partis. Là, il entendit des gémissements. Il s'est approché du trou. Il a demandé qui appelait. C'était le père Pancrace lui-même qui avait repris connaissance. Il a supplié le sacristain d'aller demander à un conseiller, le conseiller Hoffmann, de le tirer de là. Le sacristain avait peur. Il avait vraiment peur. Là, le père Pancrace a compris qu'il n'avait aucun espoir d'être secouru. Il a exhorté le pauvre sacristain à rester fidèle à Jésus-Christ, malgré la peur des tourments, et à être courageux. Il a continué inlassablement à invoquer Jésus et Marie. Et là, de pieuses dames de la ville de Cassa ont tenu de faire déposer les corps des martyrs dans un lieu moins indécent. Mais ils n'ont pas pu ensevelir avec solennité le corps de ces martyrs parce que les protestants qui étaient maîtres de la ville ne voulaient pas procurer un triomphe aux catholiques. Et en 1631, les jésuites, ont pu rentrer dans cette ville à Cassa. Ils ont ouvert dans le palais même où avait eu lieu le martyr un collège qui jusqu'à subsister, jusqu'à la suppression de la Compagnie de Jésus. Et les trois martyrs ont été béatifiés par Pie X le 15 janvier 1905. On peut lire d'ailleurs dans certains ouvrages les moindres détails, les témoins ont rapporté tous les témoignages sur ces martyrs, tout ce qui concerne de près ou de loin cette terrible chose. Il y a même un livre qui s'appelle « Les trois bienheureux martyrs de Hongrie ». Et sous le même titre, il y a un article qui est paru dans la revue Études. Alors ceux qui vivent dans des communautés où il y a toute la revue Études au complet, là, vous pouvez vous aller voir dans l'année 1905, de la page 5 à page 27, il y a un récit. Mais ça, c'est introuvable. Il faut aller dans des bibliothèques. La revue Études. Je suis abonné à cette revue depuis très longtemps, mais pas depuis 1905. Et alors, il y a aussi Don Leclerc qui a écrit dans sa grande collection Les Martyrs en 1908, dans le tome 8, plusieurs pages sur ce récit terrible. Je vous ai raconté ça pas pour que vous détestiez les protestants. Loin de là! Pensons que quand la politique s'insère dans les querelles de religion, elle porte des fruits abominables, des fruits pourris. Débarrassons-nous de toute politique quand nous avons la foi. On peut s'engager de part et d'autre dans des partis politiques, mais dans notre foi chrétienne, sachons nous respecter les uns les autres et respecter ceux qui ne sont pas chrétiens. Soyons de véritables chrétiens dans le domaine politique. Rendons la justice vraie. Rendons les choses justes et vraies. Moi, je suis engagé politiquement. Je ne vous dirai pas où, mais je le suis. Et je le suis avec beaucoup de joie. Et je respecte avec grand joie aussi les gens qui ne partagent pas mon point de vue. Je respecte tout le monde. Je crois que c'est la seule façon. En cette veille de la naissance de Marie, je voulais vous dire un petit texte. Venez, mes enfants, je suis votre mère à tous. Chacun d'entre vous peut être sûr de mon amour. Venez à moi, vous tous, de toute race, nation et continent. Je vous accueille tel que vous êtes, avec vos joies et vos peines, vos qualités et vos défauts, vos réussites et vos échecs, vos états d'âme humiliants, et vos états de grâce exaltants. Vos goûts pour le péché, vos écœurements de l'avoir fait, et votre désir d'en sortir. Vos chutes et vos rechutes, vos guérisons et vos progrès. Venez, je suis votre mère à tous, parce que je suis la mère de Jésus, en qui, par sa croix, vous êtes tous frères et sœurs. Ce Fils qui fut ma joie par le rayonnement de sa sainteté, par son amour infini du Père, par sa grande miséricorde, je voudrais vous le donner, vous le faire connaître et aimer, pour que par lui, avec lui et en lui, vous viviez avec droiture, comme Bernadette Soubirous, votre pèlerinage terrestre difficile, marchant ensemble vers votre Père.